Eh bien, bonsoir, bonjour. Nous allons pouvoir commencer cette rencontre pour l'incroyable histoire de l'éducation. Je suis avec les auteurs de la bande dessinée, Jean-Yves Segui, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Saint-Étienne, et Eva Rollin, qui est donc au dessin sur cette œuvre. Tu es dessinatrice de bande dessinée, tu as réalisé des bandes dessinées, la série Mademoiselle. Donc on te connaît déjà pour pas mal d'œuvres. Et cette fois-ci pour quelque chose d'un peu différent, puisque L'incroyable histoire de l'éducation, c'est une collection qui est produite, éditée aux éditions Les Arènes BD. C'est une collection qui a vocation à être à la fois éducative et puis en même temps à être cet objet qu'est la bande dessinée, souvent lié à l'humour et à une autre sensibilité de vulgarisation scientifique. Donc j'aimerais vous entendre pendant cette heure d'échange sur... votre travail et qu'est-ce que vous avez produit dans ce magnifique ouvrage, 280 pages. C'est pas rien, c'était pour moi une belle après-midi de lecture, mine de rien quand même, pour préparer cet échange. C'est ça, c'est un sacré travail qui a été mené, de travail partagé. Tout d'abord, j'aimerais bien savoir finalement qu'est-ce qui vous a mené l'un et l'autre à ce projet. Comment est-ce que vous êtes arrivé à travailler sur cette bande dessinée?
On va commencer par Jean-Yves, parce que c'est Jean-Yves qui a l'initiative du projet.
Alors, merci d'abord de cette invitation. Je suis ravi de venir parler de cette BD. Et les premières questions que tu poses sur la manière dont on est arrivé là, c'est vraiment des questions qui sont importantes pour moi. Alors, d'où ça vient cette idée? Il y a une collection qui s'appelle Les Incroyables Histoires 2. Et donc, parmi celles-ci, il y a l'incroyable histoire de la médecine, l'incroyable histoire de la littérature française, et ainsi de suite. Et puis, donc moi, je suis enseignant à l'Université de Saint-Étienne, je suis enseignant d'histoire de l'éducation. Donc, j'enseignais à des étudiants et des étudiantes de sciences de l'éducation qui, pour la plupart, se destinaient au métier d'enseignement. Professeurs des écoles, CPE, conseillers principaux d'éducation ou principales d'éducation, et les métiers d'éducateurs ou autres. Et donc, moi, je faisais un cours qui avait pour... C'était pas, je leur disais toujours, je ne vais pas faire de vous des historiens ou des historiennes, mais c'est plutôt pour vous apporter quelques clés de compréhension de l'histoire de l'école et de l'éducation et vous amener à réfléchir un peu différemment au présent de l'éducation. Et faire de vous des acteurs éclairés, des acteurs de l'éducation et des actrices de l'éducation éclairées. Donc voilà, ça c'est pour vous situer le contexte dans lequel j'étais. Et puis un jour, j'écoute à la radio, sur France Inter pour ne pas la citer, l'interview d'un monsieur qui parlait d'histoire de la médecine. Et alors moi, je suis tombé en arrêt en me disant « Oh là, mais c'est passionnant !» Et il nous dit, il me dit pas qu'à moi, mais il dit à la radio qu'il a rédigé un ouvrage, le scénario d'une incroyable histoire de la médecine. Et alors moi je me dis, mais alors ça serait c'est une super idée ça, et pourquoi on ne ferait pas ça sur l'éducation? À ce moment-là, il n'y en avait pas encore beaucoup, il y avait la médecine, il n'y avait pas encore la littérature, il y avait le vin, l'incroyable histoire du vin. Je me suis dit, entre le vin et la médecine, on peut glisser l'éducation. Et donc j'ai monté un projet auprès des arènes que j'ai soumis et c'était partant. C'était en plus quelque chose qu'ils avaient en tête. Il y avait une des personnes qui disait « Ah oui, ça serait pas mal qu'on fasse quelque chose autour de l'éducation ». Et juste une chose, et puis après je te laisse la parole, c'est que c'est posé tout de suite la question quand la première fois que je suis allé aux arènes et où on s'est dit « Allez, c'est bon, on va faire ça ». La question c'était « Est-ce qu'on fait une histoire de l'école ou une histoire de l'éducation ?» Moi, j'étais plutôt partant pour faire une histoire d'école parce que c'était un peu ma spécialité. Moi, je suis historien, je suis spécialiste de l'entre-deux-guerres en particulier. J'ai travaillé beaucoup sur le système éducatif sous le Front populaire, sous le ministère Jean Zay, voilà. Et j'ai toujours beaucoup parlé de l'école. Donc, moi, ça aurait été super simple si on m'avait dit « Ah, allez, histoire d'école ». Mais aux arènes, ils m'ont dit « Ah ouais, mais ce serait pas mal quelque chose qui serait plus large que l'école et qui soit l'histoire de l'éducation ». Alors qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire se préoccuper aussi de l'éducation, en particulier dans la famille. Ce qui fait qu'on verra, vous verrez si vous souhaitez lire cette BD, qu'il y a beaucoup d'écoles, on parle beaucoup de l'école, mais il y a aussi systématiquement quelque chose qui touche à l'histoire de la famille. Et donc, on est parti là-dessus et on s'est dit, ah mais maintenant, il faut une dessinatrice ou un dessinateur, et j'ai eu la chance qu'on me présente Eva Rollin, qui a été la dessinatrice. Donc là, je te laisse. Mais si,
bien sûr. À toi, Eva, raconte-moi un peu aussi cette histoire.
Il faut tenir le micro comme ça, c'est ça. Là, là on entend bien. Là. oui, ben moi, en fait, je connaissais une amie qui avait fait l'incroyable histoire du sexe aux arènes. Et oui, il y a des sujets comme ça qui marchent bien, hein. Le vin, la médecine.
Très porteur, le vin et le sexe, les deux qui ont le plus marché pour le moment.
Il a très bien marché.
On espère l'éducation en troisième.
Et du coup, j'étais à Angoulême, c'était juste le dernier Angoulême avant le fameux Covid, avant d'être confiné. Et elle m'a dit, bah, viens manger avec nous, je suis avec mon éditeur des arènes, que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est toujours comme ça, hein, en fait, ça se passe toujours un peu dans ce domaine-là. Enfin, moi, personnellement, c'est toujours par des rencontres un petit peu fortuites. Donc tardive et fortuite en fin de soirée à Angoulême. Et donc il me dit, bah, tu fais quoi? Je dessine, mais moi j'étais plus dans un dessin d'humour un petit peu ironique, plus lâché, enfin voilà. Et bah, un mois après, il m'a téléphoné pour me dire, bah, j'ai un projet à te proposer. Donc je pense qu'il avait déjà reçu ton projet, hein. Et il a pensé qu'on ferait un bon duo, et je pense qu'il n'a pas eu tort. Du coup, un peu improbable, comme on dit toujours en rigolant, mais ça a très très bien fonctionné. Alors c'est vrai que moi, au niveau du dessin, j'ai dû réajuster un petit peu plus, faire quelque chose d'un petit peu plus, plus cadré, plus casé, plus sérieux, entre guillemets, mais en même temps, l'intérêt c'était de mettre aussi un petit peu d'humour et de choses un peu plus... un peu vivant, quoi. Et puis non, bah, c'était une très, très, très belle rencontre avec Jean-Yves. Vraiment, on s'est vus pour travailler, on s'est appelés régulièrement. J'ai appris beaucoup de choses. Jean-Yves est formidable et totalement pas objectif avec moi. Donc ça a vraiment été une belle rencontre, et je pense que ça se ressent quand même dans le livre, en fait, qu'il y a eu une collaboration qui était vraiment super chouette et qui continue maintenant avec la tournée. Mais voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé.
Puisque c'est vrai que cet objet, c'est vraiment en effet ce dialogue que vous avez tous les deux, Jean-Yves qui est donc un grand spécialiste du sujet de l'éducation, et toi, une très grande dessinatrice.
Donc, alors moi, je suis en éducation, je suis nulle.
C'est vrai que je voulais te demander.
Je ne sais pas éduquer ni mon fils, ni mes chats, ni mes élèves. J'ai aucune autorité. Donc c'était assez ironique d'avoir ce livre, n'est-ce pas?
C'était une manière de reparcourir la chose, de la voir avec un autre.
Non, mais moi j'ai appris beaucoup de choses. Par contre, en le faisant, c'est vrai que c'est quand même c'est très pointu. Jean-Yves a une connaissance extraordinaire. Il y a plein de choses dont on se doute pas du tout. J'en ai appris en le faisant, j'en ai appris autant que vous allez en apprendre en le lisant. Voilà, et je vends bien le truc. Hein.
J'imagine pour toi, Jean-Yves, aussi, c'était quelque chose de découvrir ce milieu de la bande dessinée, ce travail de l'ouvrage sous un autre regard. On parlait un petit peu avant la rencontre, tous les trois, de cet exercice de mettre en page et de mettre toutes ces informations, parce que le livre est extrêmement riche.
Oui.
En seulement 280 pages, c'est assez fou ce qu'on arrive à faire passer, sachant qu'on est à l'équilibre entre texte et dessin. Mm-hmm. Les deux apportent beaucoup et dialogue, mais c'est tout un exercice, une prise en main qui pour toi est assez naturelle.
Effectivement, Jean-Yves a beaucoup de choses à raconter, et c'est extrêmement intéressant, mais il y a des moments où effectivement ce qu'il pensait tenir en une page ne tenait pas en une page. Moi je le déclinais en 2-3 pages BD, et Jean-Yves a cette délicatesse et cette intelligence d'avoir suivi et d'être d'accord, de pas dire non c'est mon texte, on touche pas, non c'était vraiment un travail qui est chouette de collaboration. En fait, j'ai eu beaucoup de liberté. Tu m'as laissé beaucoup de liberté, et ça, c'est plutôt chouette.
Et puis, on est sur un objet tout public, et pourtant, il y a quand même énormément de précision, à la fois dans ce qui est exposé, mais aussi dans l'usage des sources. C'est-à-dire qu'il y a une bibliographie très dense. À la fin, on retrouve tout le travail de bibliographie. Et même tout au long de l'ouvrage, il y a très régulièrement une attention qui a été portée au fait d'intégrer de ta part des réinterprétations d'œuvres, de sources, en les redessinant et en mentionnant justement la source de l'objet. Ouais. Ça, c'est vraiment un exercice qui est assez unique, parce que ça permet à la fois d'intégrer ce narratif et d'avoir une fluidité dans ce qui est proposé, mais aussi d'ancrer le réel dedans, et donc d'être pas uniquement dans de la théorie. Et il y a cet exercice de travailler avec les sources qui, j'imagine, a dû être quand même assez pensé.
Comme je dis souvent, nous sommes la tête et les mains. c'est Jean-Yves qui a fait tout le travail de recherche qui est extraordinaire.
Mais,
quoi.
Alors, je ne vois pas tout à fait la partition comme ça, tête et main, non, parce que ça a été deux têtes, vraiment. Mais ta question est importante, Lénaïque. Donc, moi, je suis un universitaire classique. Hein, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est mon travail habituellement ? C'est de faire des cours, assurer un enseignement avec des étudiants et le plaisir de partager un savoir avec des étudiantes et des étudiants. Et puis, c'est de faire de la recherche, donc de me plonger dans des documents d'archives, dans des cartons d'archives, là, quand on les ouvre, ça sent bon, tout ça, enfin, c'est génial. Et puis d'écrire des livres, des livres hyper sérieux, des articles, surtout, on doit publier beaucoup des articles. Et là, il s'agissait de passer de mon habitude de fonctionner d'universitaire à quelqu'un qui fait un scénario de bande dessinée qui doit être diffusé au grand public. Et alors, je vais vous dire quel a été mon plus grand sacrifice. Alors vraiment, ça, c'est quelque chose qui est terrible. Les historiens, il y a un truc qu'ils aiment, c'est des notes de bas de page. Alors ça, les notes de bas de page, mais si vous voyez certains bouquins, je me souviens une thèse, une doctorante qui s'était fait beaucoup critiquer parce qu'elle avait, dans plusieurs pages de sa thèse, avait 3-4 lignes, et puis tout ce qui était en dessous, c'était des notes de bas de page. Alors le bas de page commençait très haut d'ailleurs. Mais tout ça pour dire qu'on a cette sécurité quand on est universitaire historien, c'est qu'on dit quelque chose et tout de suite après on dit « Ah oui, voir telle référence, tout ça ». Et là je ne pouvais pas, parce que vous imaginez dans une bande dessinée. Alors je me suis laissé un tout petit peu aller à certains moments à mettre sur cette partie, voir en particulier tel ou tel auteur. Mais sinon, comme tu le disais Lénaïque, on a tout basculé à la fin. Il y a une bibliographie qui est importante. C'est à la fois pour rendre hommage à toutes les personnes à qui on a emprunté des idées, des travaux. Donc il faut les citer, hein. C'est une sorte de règle d'honnêteté intellectuelle. Et puis c'est aussi pour permettre aux personnes qui découvriraient la BD, s'ils ont envie d'aller plus loin, ben d'aller voir plus loin. Et il y a à la fois des travaux d'historiens, il y a même des sources numérisées, c'est-à-dire des sources d'archives numérisées. On en parlera peut-être, je donne juste cet exemple-là. Il y a un moment, je fais une petite incursion dans le contenu. 1870, la France se prend une raclée, vraiment, face aux Prussiens, aux Allemands. Et entre 1870 et 1914, il y a toute une idée de revanche. Hein, c'est la revanche contre les Allemands, contre les Prussiens. Et en 1877... et publier un ouvrage, un petit ouvrage qui va aller dans toutes les maisons. Tous les enfants, quand ils avaient un cadeau d'anniversaire, qu'est-ce qu'ils avaient ? Ils avaient le tour de la France par deux enfants. C'était un petit ouvrage dans lequel qui pouvait servir aux enfants pour un peu apprendre à lire, mais surtout se faire une culture géographique, historique, sur les sciences de la vie de la Terre. On disait pas ça comme ça à l'époque. Et surtout de façonner une sorte d'amour de la France et de la patrie, hein, parce que voilà, je reviens à mon origine, la défaite dans la guerre de 70, et donc il y a des choses qui sont tout à fait édifiantes dans lesquelles on montre, enfin au passage, je cite souvent, et Eva les a dessinées, on façonne l'esprit des élèves d'une manière qui est parfois ahurissante, en particulier sur les races. Il y a une planche, enfin un dessin qu'a repris Eva, dans lequel on présente les quatre races. La race blanche, la race jaune, la race noire et la race rouge. À l'époque, on considérait qu'il y en avait quatre. Et avec un petit propos en dessous, en commençant en disant « la race blanche, la plus parfaite de toutes ». Vous imaginez, les petits enfants de 8, 9, 10, 11, 12 ans, entre 1877 et 1914, ils entendaient ça, ils lisaient ça. Alors pourquoi je vous dis ça ? C'était juste une parenthèse pour vous dire que on a reproduit plusieurs dessins de ce tour de la France par deux enfants, mais on a mis la référence de ce en bibliographie, ce qui fait que ça vous permet de retrouver, c'est un ouvrage qui est en ligne, qu'on peut trouver intégralement. Donc si vous voulez voir ce qu'on disait...
Si vous voulez l'offrir à vos petits-enfants et à vos enfants...
Alors, si vous l'offrez, vous le commentez, parce qu'il ne faut, il faut surtout pas le rejeter, il faut l'offrir et le commenter. Et vous verrez des choses, je pense qu'il y a quelque chose sur Clermont-Ferrand aussi, enfin voilà, il y a, c'est tout à fait passionnant. Et je reviens sur ce que tu disais à la toute fin de ton propos. On a souhaité, avec Eva, utiliser des œuvres célèbres ou pas, que Eva a réinterprété des tableaux. Parce que
toute la difficulté, c'est les droits d'auteur, effectivement, de faire attention aux droits d'auteur.
On a fait attention.
Il y a eu un gros travail, d'ailleurs, de toi et de l'éditeur, pour vérifier si on n'allait pas avoir de soucis, justement, avec l'utilisation des œuvres qui étaient importantes de mettre, parce que ça fait partie du processus et de l'histoire.
Voilà.
Et en même temps, on est quand même soumis aux droits d'auteur, donc c'est pour ça que c'est souvent réinterprété.
C'est réinterprété. Alors, par exemple, je vous donne le plus bel exemple qu'on a, parce que alors, c'est là où on voit la puissance créatrice des vins, c'est que il y a tout un fil rouge dans cette histoire dans laquelle on essaie de montrer en quoi l'école, elle est révélatrice des questions que se pose la société, ou révélatrice d'une époque. Et vous verrez qu'il y a tout un passage sur l'école pendant la guerre, pendant les guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Il y a des choses ahurissantes. Deuxième Guerre mondiale, régime de Vichy, et... On peut trouver sur le site de la BNF, la Bibliothèque nationale de France, on peut trouver quelque chose, je vous conseille d'y aller, ça s'appelle les bons points du maréchal. Qu'est-ce que c'est les bons points du maréchal? C'est sous le régime de Vichy, le maréchal Pétain, qui culte la personnalité, voilà, il faut montrer le maréchal Pétain. Donc on donnait aux élèves, quand ils avaient bien réussi, quand ils avaient été gentils avec leurs camarades, on leur donnait des bons points. Mais ce n'était pas des petits bons... Donc les bons points qui permettaient, après avoir des images, les bons points, c'était des récompenses. Et ces bons points, ce n'étaient pas des petits bons points dans lesquels il y avait écrit « bons points ». Il y avait des images qui représentaient des scènes de la vie quotidienne telles que le régime de Vichy les voyait. Et en particulier, il y a une place de la femme qui est... on voit la femme uniquement comme la personne qui arrive. Il y a une image dans ce bon point où elle tient une soupière et puis il y a le mari qui rentre et qui dit rien. On ne sait pas ce qu'il dit parce que il n'y a pas de bulle. Et donc il y a des bons points sur les grands hommes. Il y a des bons points sur les grands hommes. Alors les grandes femmes. Pas du tout. Alors que parmi les grands hommes, il y a Pierre Curie. Mais il n'y a pas Marie Curie. Alors on le dit, on montre, il n'y a pas Marie Curie, alors que Marie Curie, elle a fait mieux que Pierre Curie. Bon, il est mort de manière prématurée en se faisant écraser dans la rue, mais il a eu un prix Nobel, Marie Curie en a eu deux. Eh bien, elle les avait déjà au moment du régime de Vichy. Eh bien, on n'en parle pas. Donc vous voyez, il y avait toute cette histoire de la société sous le régime de Vichy qui transparaît à travers cette histoire de l'éducation. Et alors pourquoi je vous dis ça par rapport à ce que disait Eva, c'est que on n'a pas eu le droit d'utiliser les bons points. On aurait adoré représenter ces bons points du maréchal. Donc vous verrez, il y a une page où on a pu dire ce qu'on voulait dire, en mettant en évidence cette place de la femme, cette glorification des corps, cette glorification de la nature, ce rejet de la culture livresque. Voilà, il y a tout ça dans le régime de Vichy qui apparaît dans les bons points du maréchal et qu'on a représenté de manière à ne pas avoir de soucis avec... les droits d'auteur, parce que
la difficulté en fait de travail historique comme ça, c'est qu'il faut faire extrêmement attention à tout ce qu'on utilise
et trouver des
moyens d'exprimer sans avoir utilisé l'image de base ou la source de base.
Voilà, exactement. Quand on utilise une mosaïque de Pompéi, il n'y a pas de souci, les ayants droit ne vont pas venir nous embêter. Mais par exemple, un autre exemple, on présente Simone Veil, parce qu'on donne toujours des éléments de contexte historique pour montrer comment les questions d'éducation se situent à l'intérieur de ce contexte historique. Alors, on montre Simone Veil, cette célèbre photo, vous savez, on la voit à la tribune de l'Assemblée nationale quand elle défend la loi pour l'interruption volontaire de grossesse. On la montre au service juridique des arènes et il nous dit « Ah là !» On voit vraiment que c'est une photo. C'est pas les descendants de Simone Veil qui nous auraient embêtés, mais plutôt les photographes. Ouais. Les descendants, ou le photographe lui-même, parce que c'est une photo qui date de 1975. Et bien donc, je me suis précipité vers Eva. Je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais la présenter différemment? Et donc, elle l'a présentée différemment,
non,
de face.
On enlevait les micros, on enlevait les
micros. Non, mais tu l'as mise de face alors qu'elle était de profil, de manière à ce que... Voilà. Donc, c'est le genre de questions que moi, universitaire, je ne m'étais jamais posées avant, parce que nous, on a l'habitude d'abord, nos articles sont très peu illustrés. Voilà. Et on ne se pose pas ces questions. Donc, il a fallu que j'apprenne.
Et en cours, tu passes des diapos.
En cours, je passe des diapos dans lesquels je ne me pose pas la question pour les ayants droit. On s'est posé juste aussi une question, juste. Tu m'arrêtes, hein, si je suis trop long, Lénaïque.
Il
n'y
a pas de souci.
Vous verrez qu'il y a un chapitre un gros chapitre sur le Moyen-Âge, et en particulier, on fait un petit sort à la fameuse question: est-ce que c'est Charlemagne qui a inventé l'école ? La réponse, c'est non. Il y avait des formes d'école avant, mais on a eu cette idée folle d'illustrer le début du chapitre avec France Gall chantant qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école, c'est ce sacré Charlemagne. Mais on avait mis que quelques vers.
Ce n'est pas vrai d'ailleurs, ce n'est pas Charlemagne.
Et donc elle a dessiné France Gall, voilà. Et cinq jours, une semaine avant de rendre à l'imprimeur la BD, une des personnes des arènes me dit « Ah, c'est bien, vous avez vraiment fait attention, parce qu'on vient d'avoir un problème avec les descendants d'Anne Sylvestre, enfin les descendants, la famille d'Anne Sylvestre, parce que dans un des ouvrages, ils avaient mis quelques vers d'une chanson d'Anne Sylvestre, et donc il y a eu plein de soucis après, je vous passe les détails. » Et donc là, moi, je me suis totalement liquéfié, parce que je me suis dit « Oh là, on a écrit... » Et donc j'ai tout de suite contacté le service juridique, je me voyais déjà demandé à Eva de gommer, de voilà. Et en fait, non, ils m'ont dit non, là, il y en a vraiment très très peu, vous verrez, il y a vraiment très peu de choses et on ne risquait rien. Mais voilà, ça fait partie des questions passionnantes, un peu stressantes, qu'on est amené à se poser.
Bah, au niveau des sources, j'avais un dernier aspect que j'aurais aimé entendre avant de parler vraiment du contenu, du traitement du sujet, c'est que justement, vous avez apporté toutes ces sources dans l'ouvrage, mais vous prenez aussi quand même le temps de les critiquer et de les analyser. Et ça, c'est pas simple dans la narration, parce qu'il y a vraiment une fluidité et on progresse dans plein d'aspects, on va dire, théoriques de ce qu'est l'éducation. Mais vous prenez le temps quand même de vous arrêter sur ces œuvres, justement, sur la critique de Charlemagne a inventé l'école, sur la critique, moi j'avais pris cet exemple-là, justement, de ce Tour de France de deux enfants. C'est un aspect extrêmement important, finalement, de l'ouvrage, parce qu'il y a à la fois un apport de connaissances massif, où on apprend vraiment si on découvre le sujet, et à la fois aussi un regard, un pas de côté, une critique, parce qu'on ne peut pas juste s'arrêter à livrer des faits et puis laisser le lecteur avec et se débrouiller.
Oui, merci de cette question. Elle est extrêmement importante parce que ça permet de dire que quand on fait un travail historique, je veux dire une évidence, l'objectivité totale n'existe pas. Il y a un point de vue, il y a une manière de... Il y a des choix que... qu'on a pu faire, hein, de montrer tel ou tel fait historique. Et c'est vrai que pour nous, c'était important. Non pas de dire « il faut penser de cette façon », on ne se permettrait pas ça, mais de dire « attention, ça ». Effectivement, l'exemple, c'est un bon exemple que tu proposes, hein, le Tour de la France par deux enfants, c'était de montrer que ça existait, que c'est quelque chose qui est important à connaître, que c'est quelque chose qui a façonner l'esprit des élèves, mais c'est aussi prendre un petit peu de recul en disant attention, par exemple, autour de tout ce qu'il y avait sur le racisme, attention à ce que ça pouvait être. Il y a un autre exemple sur la même période, tu vas peut-être en parler, pardon, hein, si tu avais prévu d'en parler, mais sur la même période, entre 1870 et la guerre de 14, alors c'est plus concentré sur la fin du 19e, on est toujours dans cette logique de revanche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, on va préparer les élèves à la revanche. C'est-à-dire, on va préparer les élèves à être de futurs soldats. Et qu'est-ce qu'on va créer? Les bataillons scolaires. Qu'est-ce que c'est, les bataillons scolaires? Mais c'est ahurissant. Vous verrez des représentations, parce qu'on s'est appuyé sur des photos. Hein, Eva est partie de photos d'enfants qui étaient dans des bataillons scolaires. Donc, c'était des enfants de 11, 12, 13, 14 ans, qui apprenaient à marcher au pas, à manipuler des fusils en bois. Alors attendez, pas que en bois, vous allez voir, mais jusqu'à 14 ans en bois. Donc ils apprenaient à tirer debout, couché, assis, ils apprenaient la discipline. Et puis même à partir de 14 ans, ils apprenaient à tirer avec des vrais fusils. Alors c'était hyper contrôlé, hein, vous imaginez bien. Et puis les fusils, il y en avait 3 par école. Le soir, ils devaient aller, ils étaient enfermés dans la caserne de gendarmerie. Enfin voilà, c'était hyper contrôlé. Mais il n'empêche qu'on apprenait à des enfants de 14 ans à tirer. Et donc, vous imaginez bien que quand on présente ça, on le présente avec une certaine distance et avec, et tu en as parlé à un moment donné, c'est une des clés de cette collection et on l'espère de cette BD, c'est l'humour, le décalage. C'est, on se moque un petit peu, par exemple, quand on dit on va abaisser l'âge à partir duquel les enfants vont pouvoir utiliser un fusil. Eh bien, Eva, une idée d'Eva, a représenté un enfant dans un berceau avec un fusil, quoi. Pour dire où est-ce qu'on va s'arrêter, quoi. Voilà. Donc oui, c'est une histoire qui, comme toutes les histoires, n'est pas neutre, n'est pas. Il y a des partis pris, ne serait-ce qu'à travers le choix. On fait tout un chapitre sur l'éducation nouvelle. On va en reparler, mais ben, je ne veux pas en déflorer parce que je sais que tu as une question là-dessus. Mais sur l'éducation nouvelle, ben, ça veut bien dire que pour nous, c'était important d'en parler et de dire attention, il y a eu une vision très très traditionnelle de l'éducation et il y a une autre vision qui s'est développée à un moment donné et qui existe encore. Et
les deux. On essaye quand même de rester objectif, hein. On a essayé de rester objectif quand même.
Comment ?
On a essayé de rester objectif quand même.
C'est-à-dire que.
Ouais, j'ai passé des petits trucs des fois, de temps en temps, mais bon.
Ouais, non, mais. alors, juste, il y a quelque chose par rapport à ce que tu dis objectif, c'est-à-dire que vous verrez qu'il y a plein de propos qui sont tenus dans lesquels vous trouverez des guillemets. Quand il y a des guillemets, c'est vraiment un choix qu'on a fait, c'est quand il y a des guillemets, c'est que ce sont vraiment des propos qui ont été tenus, écrits par tel ou tel auteur. Vous verrez, il y a des traités d'éducation au Moyen-Âge, faudra qu'on en parle tout à l'heure, c'est génial, les traités d'éducation au Moyen-Âge. Là, vous verrez, il y a plein de guillemets, parce que c'est vraiment des phrases qui ont été tirées de traités d'éducation du Moyen-Âge. Tirées, mais traduites, hein, parce qu'on n'a pas laissé en ancien français, quand même.
Oui, quand on demande aux femmes de ne pas se moucher dans la nappe, par exemple, c'est pas nous qui l'avons écrit.
Voilà. Hein, oui, il y a des précise. Choses qui paraissent étonnantes, cet exemple-là que il y a... On estime qu'il est nécessaire d'expliquer qu'il ne faut pas se moucher dans la nappe au Moyen-Âge. Donc, si on estime que c'est nécessaire de le dire, c'est qu'il y en avait qui le faisaient, quoi. Donc, voilà. Et donc, c'est là où il y a la part d'objectivité, au sens où on a réutilisé vraiment des documents d'archives. Mais là où, effectivement, il y a une part de subjectivité, c'est pourquoi j'ai choisi celui sur l'usage de la nappe, le mouchage dans la nappe.
Et qu'on essaie de mettre un peu d'humour aussi pour que la lecture, ce soit...
Mais, enfin, voilà, en tout cas, dès que vous voyez des guillemets, si vous dites « non, c'est pas possible », si, c'est vrai, vous allez voir.
C'est vrai.
On va pouvoir un peu s'intéresser à votre pratique sur l'objet de l'éducation. Vous avez décidé de séquencer cet ouvrage par chapitre, par période. Il y en a donc pas mal. On commence avant même l'invention de l'écriture avec la préhistoire, même si on est forcément sur une séquence beaucoup plus courte, hein, l'archéologie a peut-être plus de mal à révéler ces aspects de l'éducation que ne peuvent le faire des sources contemporaines. J'imagine que ce travail, même pour toi, ça a été aussi une redécouverte de certaines périodes, puisque tu es contemporanéiste, tu te concentres peut-être un peu plus sur ces sources-là. Je pense notamment sur la partie, en effet, médiévale, où il y a pas mal de choses. Et puis, je pense que pour toi, Eva, ça a peut-être aussi été un travail d'uniformisation de tout ce qui t'a été fourni en termes de sources, parce que on travaille pas du tout les mêmes documents, on travaille pas du tout les mêmes représentations.
Jean-Yves a été extraordinaire pour ça, c'est-à-dire qu'il avait tout préparé en amont... Non, mais c'est vrai, le travail de recherche, d'iconographie, donc après moi je fais les miennes, mais c'est vrai c'était très très documenté. Vraiment, il m'a mâché beaucoup de travail quand même, mais j'en ai même bien. Hein. non, c'était très très bien préparé, il y avait toutes les références, tous les documents, j'aurais m'envoyé tout, quoi, c'était chouette. Moi j'ai appris beaucoup de choses, hein. Mais comme j'ai tendance à le dire, j'ai jamais dessiné autant de moines de ma vie, hein. Ça je t'en veux pour ça quand même. mais ce qui est intéressant sur les chapitres, c'est justement que Jean-Yves, il a fait ça, et donc il a fait vraiment chapitre par période chronologique, mais à chaque fois, il y a un « et dans les familles », et à chaque fois, il y a le chapitre aussi à la fin « et les filles ». Parce que c'est vrai que tout le long de l'histoire, les filles ont quand même été pas mal mises de côté. Et il y a toujours ce petit rapport à la fin de chaque chapitre historique pour voir l'évolution du côté des filles. Et moi, pour y avoir fait l'histoire de l'art à la faculté de Blaise Pascal, je le savais déjà un petit peu. Mais ce qu'on découvre est quand même assez bien, c'est que les périodes qu'on disait les plus obscures, comme la préhistoire ou le Moyen-Âge, sont quand même des périodes qui étaient les plus avancées, surtout en matière de place accordée à la femme. C'est souvent des périodes qu'on critique comme obscures, et en fait, non, il y avait quand même beaucoup d'avancées.
Oui, tout à fait. Je partage tout à fait ce que tu dis.
Comment ?
Non, au contraire, c'est très bien. Et puis c'est bien parce que sinon je vais parler pendant 3-4 heures encore. Donc, oui, c'est tout à fait juste. Comme tu disais, on a pris un choix chronologique. Hein, c'est-à-dire, alors c'est d'une banalité ahurissante. Hein, c'est-à-dire qu'on a fait de l'histoire en prenant la chronologie. Alors, c'est d'une banalité, mais on aurait pu faire autrement, prendre des grands thèmes. Prendre un thème sur comment les classes se sont construites, ou enfin la lecture, comment on apprend à lire. Et c'est pas ce qu'on a souhaité faire. On a souhaité vraiment donner des points de repère chronologiques, et parce qu'il y a un fil rouge, il y a plusieurs fils rouges qui montrent comment les choses évoluent. En particulier, par exemple, il y a juste une chose pour illustrer ça, pourquoi c'est important la chronologie, c'est que ça nous permet de dire qu'il y a des choses qui sont à l'heure actuelle qui nous paraissent évidentes. Par exemple, l'organisation en classe. Le fait qu'on rentre au CP, après on peut aller à la maternelle, après au CP on va au CE1, et au CE1, globalement, on a des enfants qui ont autour de 7 ans, 8 ans. Et puis, d'autre part, à l'école, on a des programmes, on suit des programmes. Et puis, ces programmes, ils sont écrits. Et bien, tout ça, c'est une construction. Au Moyen-Âge, on n'a pas de programme. Il y a un mélange de tous les âges. On n'a même pas de locaux pour enseigner. Dans les premières universités médiévales, Eva montre bien
un exemple. Tavernes. On apprenait dans les tavernes.
Les arrière-cours, dans les tavernes. Voilà. Et donc, pourquoi cette approche chronologique ? C'est de montrer comment, à partir du XVIe, XVIIe siècle, vous verrez, se construit une idée d'une école avec des classes, avec des programmes écrits. Et on va en 1559, il y a les jésuites vont rédiger un énorme pavé qui s'appelle Ratio Studiorum. La Ratio Studiorum, pour ceux qui sont dans l'éducation nationale, ce serait une sorte d'ancêtre du code de l'éducation, quoi. C'est-à-dire dans lequel on dit, à tel âge, il faut qu'ils apprennent telle chose. Et ça, c'est une construction qui n'allait pas de soi. Donc c'est pour ça l'approche chronologique très importante. Mais comme l'a dit Eva, il y avait le souci de faire apparaître deux questionnements importants, celui sur l'éducation de la famille, parce qu'il y avait, comme je le disais tout à l'heure, une question sur c'est bien une histoire de l'éducation et pas simplement une histoire de l'école, et puis l'éducation des filles, parce que là effectivement il y avait tellement de choses à dire, et on pourrait faire une incroyable histoire de l'éducation des filles, hein, parce que là pareil, il a fallu se limiter. Et c'est vrai que, comme le dit bien Eva, ça a nécessité, comme tu le dis, que je me documente vraiment sur des choses que je connaissais moins bien. Et par exemple, j'ai failli me faire avoir, hein, sur le Moyen-Âge. Moi, j'avais effectivement une image de la femme au Moyen-Âge étant mise de côté, étant ayant une éducation au rabais. Alors, c'est vrai aussi, hein, attention, il y a des traités d'éducation dont je parlais tout à l'heure. Il y en a un, par exemple, qu'on cite, il y a 15 chapitres et un chapitre sur l'éducation des filles. Donc on voit bien quand même que les filles, elles sont mises de côté. Mais il n'empêche qu'il y a des travaux récents d'historiens, d'historiennes. Il y a un bouquin qui est sorti il y a un peu plus d'un ou deux ans de Titu Lecoq, que je vous recommande, aux éditions L'Iconoclaste.
Qui revient plusieurs fois dans l'ouvrage d'ailleurs.
Sur lequel je reviens, parce qu'elle montre que les femmes ont été invisibilisées par les historiens. C'est-à-dire on les a mises de côté, alors qu'au Moyen-Âge, il y avait des femmes qui exerçaient des métiers qu'on attribuait typiquement aux hommes, orfèvres. C'était des orfèvreresses, il y avait des vitraillistes, femmes, hein. Et vous verrez, les noms qu'on utilise, C'est pas des noms qu'une commission du XXIe siècle aurait transformé. Non, il y a des ouvrages du Moyen Âge dans lesquels on trouve le terme orfavresse, par exemple, hein, ou chevaleresse. Il n'y a pas que Jeanne d'Arc qui était chevalière ou chevaleresse. Il y avait d'autres femmes qui étaient dans la chevalerie. Mais cela dit, quand même, globalement. Toute l'histoire, tous les 21 siècles que vous allez voir, les femmes, elles sont vraiment laissées de côté. Et en particulier, vous verrez, il y a toute une histoire autour de la première bachelière, Julie-Victoire d'Aubier, 1861. C'est assez étonnant, ça, parce que le bac est créé en 1808 par Napoléon. Napoléon, il crée plein de choses pour bien cadrer les choses, bien cadrer la société. On en parle. Et il crée le bac, 1808. Eh bien, il faudra attendre 1808 à 1861 pour qu'il y ait une première femme qui soit bachelière, Julie, joli prénom, Julie Victoire d'Aubier. Et Julie Victoire d'Aubier, elle était institutrice, parce qu'à l'époque, on pouvait être instituteur ou institutrice sans avoir le bac. Elle est institutrice, c'est une penseuse, hein. Elle écrit un ouvrage sur la pauvreté, et elle se dit, ben, pourquoi j'aurais pas le bac, moi? Et donc elle va postuler, elle va demander à passer le bac à la faculté de Paris, parce qu'il fallait s'inscrire dans une faculté à l'époque. Faculté de Paris, et là on lui dit, bah non, 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 ça se fait pas, non, non, c'est pas prévu. Donc elle se retourne vers Lyon, elle va à la faculté de Lyon, et là on lui dit la même chose, non, non, bah non, ça se fait pas. Elle l'a pas dit comme ça, hein, mais là je caricature
un tout petit peu. Ça se fait pas, quoi, meuf.
et donc elle dit, mais alors trouvez-moi un texte qui dit que les femmes n'ont pas le droit de passer le bac.
Il n'y avait rien qui était spécifié
là-dessus. Voilà, il n'y avait rien qui était spécifié là-dessus. Donc elle a passé le bac. Alors on pourrait dire, ça y est, elle a passé le bac, donc elle l'a eu brillamment. On pourrait se dire, ça y est, tout va bien, mais non, il a fallu après qu'elle se batte pour obtenir son parchemin, le diplôme du bac, à tel point. Donc elle était allée voir le recteur de Lyon en disant, ben voilà, je voudrais mon diplôme du bac. Et le recteur lui aurait dit, non mais attendez, on vous a déjà laissé passer le bac, vous n'allez pas en plus nous demander d'avoir ce diplôme. Et donc il a fallu que ce soit un industriel qui s'appelait lyonnais, qui s'appelait Arlès Dufour, qui l'avait un petit peu chapeauté, et qui est monté à Paris, vous imaginez, monté à Paris à l'époque, hein, 1861, il n'a pas pris le TGV, hop, et il est allé voir le ministre.
Toujours pas le TGV à Clermont.
Oui, à Clermont, on n'a pas le TGV, vous avez, oui, c'est vrai. Donc on est en 1861, il va voir le ministre, et il a pu revenir avec le diplôme. Donc tout ça pour vous montrer que l'histoire de l'éducation des filles et des femmes, c'est une histoire passionnante. Et malheureusement, je suis un peu obligé de dire que y a encore du boulot, hein, à faire, ah ouais. Parce que voilà.
Le choix de faire des choix, en fait.
Ouais.
Non, il ferait 500 pages.
Oui, il ferait 500 pages. Voilà.
C'est une des entrées thématiques majeures qui revient à chacune des périodes, à chaque chapitre. Il y en a d'autres, hein, évidemment. On s'intéresse évidemment à l'éducation selon si nous sommes urbains ou ruraux, si on est riche ou pauvre. À chaque fois, c'est des entrées qui vont évoluer, parfois de manière plus flagrante selon les périodes, évidemment. Et puis, on retrouve aussi, tu évoquais cette figure, mais il y en a plein d'autres, en fait, qui reviennent dans cet ouvrage. Il y a plein de portraits célèbres. On a Erasme, on a Durkheim, on a Cicéron, on a plein de personnes finalement qui se croisent parce que c'est des penseurs ou des gens qui ont agi consciemment ou pas sur ce qu'est l'éducation dans le temps. Et finalement, se côtoient à la fois ces thématiques, ces figures, et puis des phénomènes spécifiques à une époque, hein. Je pense à des évolutions techniques, hein. Par exemple, le fait qu'on arrive au Moyen-Âge avec un certain rapport compétitif à l'éducation, à cette recherche de l'élite qui caractérise en France notre sensibilité à ça, hein, à essayer d'être toujours le meilleur. C'est des éléments, en fait, qui ponctuent. C'est pourtant, ouais, on n'est pas réussi. Hein. Pourtant, ça fait 500 ans qu'on essaye et c'est compliqué. Mais c'est intéressant de voir que tout ça, ça se cumule, ça dialogue dans l'ensemble de la bande dessinée. on n'arrive pas à un espèce d'amas où tout se mélange et on a un peu de mal à s'y retrouver. Non, c'est vraiment par agrégat, par à-coup, parfois sur des questions très générales, et parfois vraiment sur un coup de projecteur, sur quelque chose de beaucoup plus simple, notamment, moi, c'est une auteure médiévale, Christine de Pizan, que j'apprécie beaucoup pour son travail, et qui, notamment, met dans l'ouvrage, en fait, un coup de projecteur qui fait du bien, en fait, pour justement s'arrêter un instant et comprendre quel contexte est celui du Moyen-Âge et comment est-ce qu'on arrive à théoriser l'éducation à une période où peut-être on le fait moins.
Mais merci hein, de ces remarques qui... Ça me fait très plaisir tout ce que tu dis, parce que c'est vraiment l'objectif qu'on avait. C'est-à-dire que d'une part qu'on s'y retrouve bien, hein, c'est-à-dire que elle est dense la BD, hein, il y a beaucoup de choses, mais il y a l'idée que bon, d'une part que ce soit drôle et en particulier vous verrez les mouvements, les mimiques des personnages, donc je pense que c'est agréable à lire, mais il y avait l'idée que ce soit qu'on s'y retrouve facilement, d'où la chronologie par exemple, et puis il y avait l'idée de montrer que l'éducation c'est une affaire de grands personnages, mais c'est aussi des affaires collectives. Des grands personnages, tu cites Christine de Pizan, ben, c'est vrai qu'on s'est régalé à la fin du Moyen-Âge, on fait un petit chapitre, on parle de l'éducation des filles, et puis on se dit, ah, il y a un personnage quand même qui est important, dont on parle un petit peu depuis quelque temps. Donc montrons de qui il s'agit, Christine de Pizan. Donc c'est un personnage donc à toute fin du Moyen Âge qui va être la première femme à vivre de sa plume. C'est pas rien ça, hein, en Occident, hein, j'entends. Une des premières femmes à vivre de sa plume, et puis imaginez, elle va même écrire une femme, un traité militaire. Traité militaire, vous imaginez à l'époque. Et puis surtout, elle dit une chose fondamentale. Elle dit il n'y a pas de différence de nature entre les garçons et les filles. Et donc, il n'y a pas de raison qu'ils aient une éducation différente. On est à la fin du Moyen-Âge, hein, imaginez. Et donc, on montre des figures comme celle-ci. Tu as parlé de Durkheim, mais on montre aussi qu'il y a des mouvements de fond, des mouvements collectifs. Par exemple, si on saute dans le temps, on a tout un chapitre sur l'école sous la Commune de Paris. 1871, vous savez, mars à mai 1871, il y a un mouvement de révolte très important de la population parisienne contre la bourgeoisie versaillaise. Hein, je schématise un tout petit peu. Et pendant 2 mois... Bon, il y a eu des combats, des luttes, ça s'est très mal terminé, avec de nombreuses personnes fusillées ou envoyées au bagne, comme Louise Michel, institutrice par exemple. Mais ce qui était passionnant, c'est de voir qu'à ce moment-là, et donc c'est pour ça que je dis, il y a un collectif, même s'il y a un personnage qui est Édouard Vaillant, qui a un rôle important, mais c'est un collectif qui pense différemment l'école. On est en 1871 et qui va dire, par exemple, il faut que l'école soit gratuite. Il faut qu'elle soit laïque, il faut qu'elle soit obligatoire, alors que ça va arriver dans le texte 10 ans plus tard, 1881 et 82 avec les lois de Jules Ferry. Mais là, il prône ça, et puis alors il prône quelque chose qui est assez étonnant, enfin pas étonnant pour la commune. Ils disent, il y a des institutrices et des instituteurs, il faudrait qu'ils soient payés pareil. Ça nous paraît évident maintenant, encore que... à l'époque, ça ne l'était pas. Et donc, il y a cette idée-là. Donc, vous voyez, il y a à la fois dans cette histoire, il y a l'idée de montrer des figures importantes. Jean Standon, que vous verrez, ou Charles Demia, qui lance des petites écoles pour les pauvres, pour les enfants pauvres, au XVIIe siècle. Et ah oui. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des progressions, il y a des retours en arrière, tout à fait. Et puis il y a des mouvements, effectivement, collectifs. On pourra parler d'éducation nouvelle aussi. Hein. Mais donc voilà, il y avait vraiment cette idée-là que tu as très bien traduite.
Et donc il y a cet usage de l'humour qui est assez constant, qui est très régulier. Il y a des on va dire des blagues qui reviennent assez régulièrement. Les trois que moi j'ai vraiment noté, c'est évidemment dès qu'on touche à l'histoire des femmes, c'est jamais au niveau par rapport à celle qu'on donne aux hommes, et donc on a toujours à un moment donné une case qui nous rappelle à quel point il y a un décalage et on doit corriger ce décalage à un moment ou à un autre. On n'y arrive jamais dans l'ouvrage, malheureusement. Il y a celui de cet artiste qui espère avoir enfin une formation des arts. Évidemment, les arts libéraux ne concernent pas directement l'art tel qu'on l'entend aujourd'hui. Et puis, il y a cette recherche d'une formation pour la cuisine. Ces pratiques, finalement, qu'on a appelées aujourd'hui professionnelles et qui n'ont jamais eu en fait, d'éducation pendant longtemps. Ça, c'est un peu des gimmicks qu'on retrouve dans la bande dessinée qui permettent à la fois de fluidifier et puis de rappeler, finalement, un peu par les manquements qu'on peut trouver dans ce qu'on n'a pas dans les sources. Ce qui aujourd'hui nous semble une évidence ou banal.
Je trouve quand même qu'il y a des choses qui nous semblent évidentes, mais enfin, je trouve qu'il y a des choses où on est un petit peu en retour en arrière à l'heure actuelle, quand même. Il y a des choses ce que soulève ce livre, c'est qu'il y a des passages dans l'histoire où on n'est pas forcément en progrès à l'heure actuelle, on est peut-être même justement un petit peu en régression quand même. Creuser une inégalité sociale sur l'école, c'est compliqué. Enfin, la culture, ça creuse une inégalité sociale encore. Enfin, la culture est chère encore, malgré tout. Enfin, je trouve qu'il y a quand même ce rapport, en fait, où on peut comprendre les progressions, mais aussi on peut comprendre pourquoi il y a des petits retours en arrière, même à l'heure actuelle.
Et vous le traitez super bien, parce que je pense que le moment où il y a une crispation, en fait, finalement, c'est à la Révolution française. On voit énormément de propositions, d'ambitions, de ce que peut être l'éducation. Et puis, dans les faits, il y a une déception, et puis ensuite, il y a d'autres rapports à ce que l'éducation, avec vraiment une confrontation, finalement, des pensées. Et progressivement, avec l'Empire, avec le Consulat et l'Empire, on voit un recul très net, et de plus en plus, cette difficulté à s'exprimer. Alors vous l'arrivez à l'exprimer avec beaucoup d'humour, justement, pour faire passer un petit peu la pilule de cette déception, mais 200 ans après, on y est encore. On est encore en train de réfléchir et c'est un retour de certaines idées, à la fois sur l'aspect réactionnaire, mais aussi sur l'aspect novateur, ce qui nous paraît novateur aujourd'hui, il était en fait il y a 200 ans aussi. Donc ce va-et-vient, cet échange, ce dialogue avec l'histoire, il est vraiment concret dans la bande dessinée.
Oui, c'est là encore merci de ces remarques vraiment.
Tu l'as lu, hein, c'est bien.
Il a bien mal. Pas mal. Vraiment, c'est super. Vraiment, il l'a lu vraiment bien. Oui, c'est intéressant de voir tu as raison, ces avancées, ce que disait aussi Eva, et puis ces retours en arrière. Et l'exemple que tu prends est vraiment passionnant sur la Révolution. La Révolution. Il y a deux choses qui se passent, enfin deux choses, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il y a en particulier le fait que il y a des grands projets, en particulier un personnage qui s'appelle Condorcet, qui fait un beau projet de réforme de toute l'éducation, enfin c'est même pas de réforme, il conçoit l'éducation telle que finalement elle existe encore à l'heure actuelle, c'est-à-dire il imagine en gros une école primaire, une école secondaire, une école supérieure, alors qu'avant... C'était complètement disparate. Il n'y avait pas d'articulation entre les différents niveaux. Condorcet, il imagine ça. Mais dans les faits, ça ne va pas se mettre en place. Parce que, alors c'est la période, les régimes se succèdent, enfin les régimes, les personnes au pouvoir disparaissent, parfois malencontreusement, guillotinées, enfin voilà. Donc c'est pendant cette période-là, et Condorcet n'est pas guillotiné, mais il meurt de manière très, très, très étrange, et en tout cas son projet ne va pas être, va pas pouvoir être développé, mais il y a quand même sous la Révolution une expérience, une innovation tout à fait étonnante, c'est ce qu'on appelle les écoles centrales. Qu'est-ce que c'est que sont les écoles centrales? Ce sont des écoles, ça correspond à l'enseignement secondaire. Et alors que avant la Révolution, sur quoi est fondé l'enseignement? Tout l'enseignement, sur quoi est fondé? Il est fondé sur la religion, d'où les dessins de moines que nous a fait, vous verrez, Eva. Donc, sur la religion et sur le latin. Le latin. Et donc une culture classique, des humanités classiques, et avec un savoir très livresque, un savoir très théorique. Et avec les écoles centrales, sous la Révolution, on arrive à l'idée que, eh ben non, d'abord, on va choisir ses cours. Donc c'est quelque chose qui est étonnant, c'est-à-dire les cours sont tous indépendants les uns des autres, c'est-à-dire on vient suivre un cours d'histoire naturelle, c'est l'ancêtre des SVT, sciences de la vie de la Terre, d'histoire naturelle, et puis on vient pendant deux jours, puis après on ne le suit pas, et donc il y a une grande liberté, alors je ne dis pas que c'est bien, hein, mais il y a une grande liberté, mais surtout il y a autour de chaque école, enfin, il n'y en a pas beaucoup, hein, faut pas imaginer qu'il y a des écoles centrales partout en France, mais dans les écoles qui se mettent en place, il y a des jardins, par exemple, et donc les enfants apprennent
On sort de la culture livresque et on va apprendre les plantes autrement qu'à travers des ouvrages d'Aristote. Parce qu'avant, c'était ça. Pour connaître les plantes, on n'allait pas cueillir une fleur ou observer, c'est mieux, observer une fleur. Non, on allait regarder ce que Aristote avait pu en dire. Avec
l'éducation gauloise, justement.
Oui, alors... on parle de l'éducation chez les Gaulois, c'est super, vraiment. L'éducation chez les Gaulois, effectivement, c'est une éducation qui est très centrée sur la nature. Et ça va être complètement contrebalancé par les Romains. Et après, par toute l'éducation au Moyen-Âge, la Renaissance. Et donc, avec la Révolution, et voilà, il y a ces écoles centrales dans lesquelles il y a des cabinets de curiosité aussi. Et donc, on va observer. Il y a même l'ancêtre des classes vertes. Ils partent pour observer la nature. Ils partent pour observer des usines aussi. Enfin, on ne disait pas des usines, des manufactures. Et donc, voilà. Et puis arrive Napoléon. Et Napoléon, il va créer quelque chose. Je vous ai parlé du bac tout à l'heure. Il crée le lycée. Et le lycée, 1802, le lycée. Et des fois, parfois, on pourrait peut-être se dire que notre lycée actuel, il est quand même l'héritier lointain de ce lycée un peu rigide, cloisonné. Et on va revenir avec Napoléon à un enseignement beaucoup plus livresque, beaucoup plus académique. Et il faudra longtemps avant qu'il y ait des tentatives pour qu'on ouvre de nouveau un petit peu l'école, fin du 19e et 20e siècle, avec des expériences de Célestin et Élise Freinet, par exemple, ou de Maria Montessori, enfin voilà, de l'éducation nouvelle, un petit peu avant Rousseau, mais enfin, nettement avant Rousseau, mais Rousseau, c'est que théorique. Il écrit l'Émile, mais il ne va pas du tout le mettre en application.
Il y a une toute petite parenthèse que j'aimerais ouvrir. Dans l'ouvrage, il y a notamment une résurgence en fait des idées donc de Le Pelletier et Saint-Just qui imaginent en fait que l'éducation c'est aussi une conception de la société dans laquelle pour eux l'enfant à partir d'un certain âge n'appartient plus à la cellule familiale mais à l'État. C'est vraiment une vision qui aujourd'hui est portée par des personnalités comme Bernard Friot par exemple qui imaginent qu'on se détache de la cellule familiale pour avoir une cellule plus globale. Ça c'est quand même quelque chose d'assez dingue parce que on est encore sur quelque chose de très marginal, de penser à une échelle encore différente et qu'on retrouvait de manière très, très pensée, très ajustée par des personnalités qui étaient au pouvoir à l'époque de la Révolution. Donc ce dialogue-là, il se fait encore aujourd'hui, même un peu en dehors des balises qu'on a dans l'ouvrage. Et j'avance un petit peu pour pas qu'on perde trop de temps et qu'on ait le temps de tout voir. Je pense notamment, tu parlais en fait de l'école de l'éducation nouvelle. Et donc c'est vrai qu'il y a à partir du 19e siècle beaucoup de personnes qui vont penser l'éducation et avoir l'occasion de décrire sur l'éducation. Donc il y en a plein, hein, Bergas, Montessori évidemment qui est très connu. Et puis avant ça déjà Pestalozzi, Robin qui avait fait cette école qui est mentionnée dans l'ouvrage. C'est vrai que ça c'est un pan assez important de l'éducation parce que justement elle s'écarte à la fois de l'éducation publique telle qu'on la conçoit à partir de la Révolution, mais aussi de l'école privée telle qu'on la conçoit à partir de la Révolution.
C'est effectivement tu interviens, t'hésites pas. C'est effectivement c'est extrêmement important. Arrive à la fin du 19e, début du 20e, cette idée que et ça va se développer en plus après la guerre de 14. Il y a cette idée qu'il faut que l'enfant apprenne en découvrant, en manipulant, en observant, en agissant. Ce qui n'était pas forcément l'idée qu'on avait avant. Et c'est tout ce courant, vous verrez, il y a un chapitre sur l'éducation nouvelle, les méthodes actives. C'est cette idée qu'il faut faire en sorte que l'enfant puisse être le plus actif possible. Ça se développe vraiment beaucoup après la Première Guerre mondiale parce que il y a un certain nombre de penseurs de l'éducation nouvelle qui disent, ben, finalement, qui sont dans un courant pacifiste, et qui se disent si finalement tous ces élèves, enfin ces anciens élèves sont partis au combat, soumis à l'obéissance des dégradés, des généraux, peut-être qu'on ne leur avait pas assez appris l'esprit critique. Alors c'est sans doute plus compliqué que ça, hein, bien sûr, mais il y a un courant pacifiste après la Première Guerre mondiale qui va avoir des liens avec ce courant de l'éducation nouvelle, avec cette idée qu'il faut permettre à l'enfant d'acquérir un esprit critique. Et il y a en particulier, je voudrais juste vous faire part tu parlais de plusieurs penseurs, il y en a un qui est Adolphe Ferrière. Adolphe Ferrière, attendez, excusez-moi, il faut juste que je le retrouve. Adolphe Ferrière, il va créer en 1921 la LIUN, c'est la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle. Et il écrit un texte, et vous verrez, Eva l'a mise en forme, comment est l'enfant, et puis finalement, qu'est-ce qu'on a fait, et pourquoi l'éducation nouvelle devrait dépasser cela. Il dit, l'enfant aime la nature, on le parka dans des salles closes. Il dit un peu plus loin, l'enfant aime voir son activité servir à quelque chose, on fit en sorte qu'elle n'eut aucun but. Il aime bouger, on l'obligea à se tenir immobile. Il voudrait s'enthousiasmer, on inventa des punitions. Donc ça, il livre ça pour apporter une critique et dire, faisons autrement. Je ne dis pas que c'est facile, mais faisons autrement. Et donc il y a vraiment... Et ce qui est intéressant, c'est que, à l'heure actuelle... Ces questions-là, en 2024, même 2024, ces questions se posent. Il y a des oppositions très fortes entre différents courants pédagogiques. Vous avez sans doute vu, Montessori est très... quand on regarde les livres publiés dans cette librairie, je suis sûr qu'il y en a plein de Montessori ou de... Donc c'est intéressant de voir qu'avec l'histoire, des questions qui sont d'actualité, qu'on voit apparaître, elles sont déjà là, en germe... dans le passé, et en particulier au XXe siècle, pour ces questions.
À l'exact opposé, on va dire, de cette école nouvelle qui cherche à débroussailler, on va dire, des champs d'éducation qui n'étaient pas encore très exploités, on a en fait des rappels flagrants dans cette histoire à l'actualité, avec des sensibilités. Le bataillon du début du XXe siècle, il a parfois, on va dire, des retours avec le SNU qui se réimpose, avec une approche de l'armée et de l'éducation, avec ce rapport qui avait été brisé il y a quelques années et qui revient. On a les questions de l'uniforme qui reviennent aujourd'hui dans l'actualité et qui dialoguent avec un autre temps. Et puis finalement, en fait, quand je vois ça, je fais le parallèle avec certains moments en fait de la bande dessinée où quand on regarde dans les théologiens de l'éducation du Moyen Âge, on a en fait déjà des moments où donc là c'est une citation c'est Berthold de Ratisbonne qui disait que un pot garde toujours l'odeur de ce qu'on a mis dedans en premier. C'est pourquoi si on apprend d'abord la vertu et la discipline, les enfants en gardent toujours quelque chose. Cette vision très conservatrice, très rigoriste finalement de l'éducation, on la retrouve aujourd'hui, elle revient, et donc ce reflux régulier, on va dire, est toujours en fait un équilibre, et on ne peut pas finalement se séparer de cette histoire de l'éducation pour penser aujourd'hui ce qu'on propose actuellement, même si justement il y a des questions nouvelles qui émergent, elles ne sont finalement aussi qu'une perspective.
L'éducation a quand même longtemps été en relation avec soit la religion, soit effectivement le côté militaire. Enfin, c'est quand même très en lien. Et nous, en France, on a quand même libéré l'éducation de la religion assez tôt. Mais je vois au Québec, moi j'ai vécu 10 ans au Québec, jusque dans les années 60-70, le clergé avait encore un poids très très fort, et sur l'éducation aussi. Et c'est vrai que ça a toujours été très, très imbriqué.
C'est effectivement très imbriqué, et effectivement c'est un bon exemple, et puis qui répond aussi à ce que tu dis, Lénaïque, c'est que on s'aperçoit que c'est vraiment flagrant. Moi je faisais souvent ça avec mes étudiants, je changeais le début de mon cours parce que il se passait quelque chose dans l'actualité. D'abord je leur faisais toujours une petite revue de presse, donc il se passait quelque chose dans l'actualité, je me disais mais voilà, c'est une question qui a déjà été abordée d'une certaine façon à tel ou tel moment. Et c'est vrai que par exemple on a à l'heure actuelle plein de questions qui se posent sur la laïcité. Vous le savez sans doute, mais on parle de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, mais dans l'école c'est antérieur, c'est déjà 1882, les lois sur l'obligation et la laïcité. Et donc on s'aperçoit par exemple que sur ces questions de laïcité, mais aussi sur ces questions d'obligation, sur ces questions de gratuité, On fait apparaître quelques débats qu'on a pu trouver au Sénat à la fin du 19e et sur ces trois thèmes au Sénat et à la Chambre des députés. Et on s'aperçoit que finalement, on retrouve des questions analogues, des manières assez semblables de les poser. Alors après, il faut toujours faire attention de ne pas avoir de raisonnement anachronique, c'est-à-dire il ne faut pas plaquer la manière dont on a présenté les choses dans le passé et à l'heure actuelle, mais c'est intéressant de faire ces liens. Parler bataillon scolaire et le SNU, Service National Universel, c'est pas du tout la même chose. Hein, on n'a pas du tout les mêmes objectifs parce que bataillon scolaire, il y avait l'idée de revanche après la défaite de 1870. Là, on n'est pas dans cette idée-là. Mais il y a quand même l'idée d'encadrer la jeunesse. Donc c'est intéressant de voir ça, de faire ce lien. L'uniforme. Alors en plus, l'histoire, c'est intéressant parce qu'elle permet de remettre en cause des idées reçues. Parce que, par exemple... C'est pas ce qu'avait fait le ministre quand il avait parlé, actuellement Premier ministre, quand il était ministre de l'Éducation nationale, il n'avait pas dit « on va revenir à l'uniforme ». Mais il y en a d'autres qui l'ont fait, qui ont dit « on va revenir à l'uniforme à l'école primaire, par exemple ». Alors attention, il n'y avait pas, quand on regarde historiquement, il n'y avait pas d'uniforme dans les écoles primaires publiques de la métropole. Il y en avait dans les établissements privés, il pouvait y en avoir ponctuellement dans quelques établissements secondaires, mais il n'y avait pas d'uniforme dans les écoles primaires publiques. Il suffit de regarder les photos du début du XXe siècle, des photos de classe. Vous voyez, on voit. Alors, ils ont tous des blouses. D'accord. Mais les blouses sont dépareillées. Et les blouses, elles servaient à quoi? Elles servaient surtout... C'était pas pour unifier, c'était pas pour montrer « je fais partie de l'école », c'était pour se protéger des taches d'encre, parce qu'à l'époque, on écrivait avec un porte-plume et on trempait sa plume dans l'encrier. Et un des facteurs... Il y a deux facteurs qui font que les blouses ont disparu. C'est mai 68, avec l'idée, voilà, ces histoires de blouses, tout ça. Et puis, le fait qu'on invente le stylo bic. Le stylo bic, on n'a plus les mêmes problèmes avec les taches d'encre. Donc vous voyez, et donc c'est intéressant quand on se plonge dans l'histoire de se dire ah ben voilà, ça permet de nuancer les choses et de se dire voyons voir comment c'était. Et en particulier de se dire il y a cette fameuse formule c'était mieux avant. Ah c'était mieux avant. Ben attendons. Allons voir quand même comment c'était. Les châtiments corporels, par exemple, qui étaient... Voilà, ben voilà. Alors vous verrez, on en parle des châtiments corporels de l'Antiquité à nos jours. Et puis, juste une chose, vous savez qu'au... Alors, on a notre système... Comme tu l'as dit à un moment, notre système scolaire, il n'est pas très égalitaire. Quand on regarde les comparaisons internationales, vous avez vu, tous les trois ans, on a un moment très très difficile en France, c'est le moment où on donne les résultats de l'enquête PISA. Alors là, il y a un moment de panique générale, parce que, d'abord, on est moyen, enfin la France est moyenne dans les résultats, bon ça d'accord, mais là où on n'est vraiment pas bon, c'est sur les écarts entre les enfants de classe sociale, de différentes classes sociales. Alors là, on n'est vraiment pas bon. On est à un des pays les plus inégalitaires. Mais ça a été pire encore avant. Alors quand je dis c'était pire, c'est pas pour se réjouir, mais c'est juste pour vous dire, parce que à l'heure actuelle, on est en train, par exemple, de remettre en cause le collège unique, beaucoup. Attention, voyons voir comment les choses étaient. Collège unique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que tous les élèves de tous les élèves de CM2, ils vont dans une classe de 6e au collège. Et bien juste, je vous dis, au début du XXe siècle, comment les choses étaient? Vous aviez d'un côté les enfants du... Je schématise un tout petit peu, mais vous verrez dans la BD, c'est un tout petit peu plus lancé. Il y a les enfants du peuple qui allaient dans les écoles primaires. Ils allaient en cours préparatoire et ainsi de suite. Et puis s'ils étaient bons, ils allaient dans ce qu'on appelait l'enseignement primaire supérieur ou les cours complémentaires. Mais ils ne passaient pas le bac. Et puis vous aviez de l'autre côté les enfants de la bourgeoisie. Encore une fois, je schématise, c'était pas si simple que ça, mais les enfants de la bourgeoisie qui allaient dans des lycées dès l'âge de 6 ans. Ben oui, ils entraient dans ce qu'on appelait les petites classes de lycée. Ils entraient dans une classe de 11e, après ils passaient en 10e, 9e, 8e, ainsi de suite. Et là, ces lycées, je parle du public là, ces lycées étaient payants. Jusqu'à 1933, les lycées étaient payants. Et donc, vous imaginez bien qu'on avait une ségrégation sociale qui était encore plus forte que la ségrégation actuelle. Parce qu'il y avait d'un côté ceux qui avaient un enseignement gratuit, mais qui ne pouvaient pas passer le bac. Et puis, il y avait de l'autre côté ceux qui allaient dans un enseignement payant et pour lequel qui leur permettait de passer le bac. Alors, pour se rassurer quand même, vous savez ce qu'on disait à l'époque ? On disait « Ah oui, mais il y a les bourses ». Effectivement, il y avait ce qu'on appelait un concours des bourses. Donc les enfants du peuple pouvaient passer un concours, le concours des bourses, et s'ils réussissaient, ils allaient avoir une bourse. Hein, c'était pas bourse sur critères sociaux, c'était une bourse sur critères de mérite. Ils allaient pouvoir aller dans l'enseignement secondaire qui était payant. Donc on allait leur payer l'enseignement secondaire. Mais c'était très très exceptionnel, à tel point que Ferdinand Buisson, un des proches de Jules Ferry, disait... Ah, ce sont des exceptions consolantes. Ces enfants qui allaient finalement du peuple, qui allaient au lycée, des exceptions consolantes. C'est magnifique, c'est terrible et magnifique. Des exceptions, ouais, qui nous consolent vaguement, nous, parce que, bah voilà, ce sont des exceptions consolantes, on se console comme ça. Et juste, je termine là-dessus, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. 1917, en pleine guerre, Première Guerre mondiale, il y a des officiers... qui était enseignant avant d'être enrôlé, de partir à la guerre, ils étaient enseignants dans le secondaire et le supérieur. Et ces enseignants, ils ne sont pas toujours au front. Hein. À certains moments, ils sont au front, puis à un moment, on les fait récupérer un petit peu. Donc, ils sont au quartier général de Compiègne. Et là, ils réfléchissent et ils refont le monde. Ils refont le monde et ils refont le monde de l'école. Et ils se disent... Il faut arrêter avec ça, ces deux systèmes, l'école pour le peuple, l'école pour la bourgeoisie. Et ils vont écrire toute une série d'articles pour un journal qui s'appelait L'Opinion. Alors anonyme, hein, parce que ça ne se faisait pas, hein, ils étaient militaires, ils étaient... Donc ils se sont fait appeler les compagnons de l'Université Nouvelle. Les compagnons de l'Université Nouvelle. Des compagnons, voilà. Et ils ont fait illustrer à la fin de la guerre, ils ont réuni tous ces articles dans des ouvrages, ils ont fait illustrer ça par un dessinateur, et il y a en particulier, vous la verrez, Eva a repris ce magnifique dessin où on voit un poilu, hein, donc un soldat, et en face de lui il y a un gradé qui a un képi, le poilu a son casque de poilu, le gradé a son képi, ils ont tous des médailles, ils s'en sont sortis les pauvres, enfin heureusement pour eux, mais les pauvres parce que ça a été tellement terrible, et puis il y a leurs deux enfants qui sont devant eux et qui sont en train de se serrer la main, l'enfant du peuple et l'enfant de la bourgeoisie, l'enfant de l'officier, l'enfant du soldat. Et il y a une petite phrase qui est écrite en dessous, qui est « Les pères ont veillé ensemble dans les tranchées, pourquoi les enfants ne se retrouveraient-ils pas ensemble sur les mêmes bancs d'école ?» Vous voyez cette formule, c'est magnifique. C'est-à-dire, c'est magnifique et c'est terrible en même temps, mais il y a cette idée que, il faut changer cette école, il faut que les enfants, quel que soit leur milieu social, puissent se retrouver ensemble sur les mêmes bancs d'école. Et c'est passionnant parce qu'on voit que tout au long du XXe siècle, on va avoir cette histoire qui va tenter de rapprocher les deux systèmes en un seul. Ça s'est matérialisé avec le Collège unique en 1975, qui n'a jamais été un collège totalement unique. Là, si vous voulez, je pourrais répondre à des questions là-dessus. Mais en tout cas, quand on dit « bon, il faut en finir avec le Collège unique », il y a sans doute plein de choses à changer et de modifier dans le collège unique, mais regardons quand même comment les choses étaient. Et c'est tout l'intérêt de l'histoire de se plonger dans cette manière de concevoir l'éducation.
Avant de passer la parole au public, s'il y a des questions de votre côté, je ne peux pas m'empêcher de mentionner, c'est dans la page 86, quand même, il y a une référence à la région, à l'évêque de Clermont-Ferrand qui fonde un jésuite. Qui fonde quand même le lycée Louis-le-Grand, très célèbre aujourd'hui pour la qualité justement de son enseignement et sa réputation, et donc Cocorico pour l'Auvergne, une fondation par un Auvergnat, donc il fallait quand même qu'il y ait ce petit clin d'œil au cours de la bande dessinée et qui nous permet... Il y en a un deuxième, c'est vrai ?
Rappelle-moi. Billon, c'est pas loin.
Billon. Ah oui, Billon, c'est pas loin,
Billon,
tout à fait.
C'est le premier collège jésuite en France, c'était en Italie, Espagne, mais le premier en France, c'est Billon.
Bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, on peut, si vous le souhaitez, passer aux questions du public. S'il y en a parmi vous qui ont une interrogation, une question sur le fond ou la forme, c'est avec plaisir qu'on vous passe le micro. Après, la première question est toujours la plus dure. Hein, c'est... Oui. Alors, attendez, je vais vous passer mon micro comme ça. Hop.
Je vais essayer d'être claire. J'ai l'impression, quand je lis quelques livres ou que j'écoute quelques podcasts, que l'école, enfin, moi, dans ma tête, je fantasme que entre la fin du 19e jusqu'à la première moitié du 20e siècle, le corps enseignant, en tout cas à l'école primaire, et l'école, elle se faisait une grande question de qu'est-ce qu'allaient devenir les enfants, de la société, qu'il y avait un grand lien entre finalement ce qu'était l'école et quelle société on voulait avoir. Et qu'aujourd'hui, moi, quand je discute avec des collègues ou quoi, j'ai plus l'impression que on se soucie des problèmes de l'école pour l'école, qu'on fait moins de liens avec la société. Et je me demandais si c'était un peu un fantasme de ma part, parce qu'en fait, je lisais quelques personnages comme ça, mais que ce n'était pas la majorité, ou si on pouvait dire qu'en effet, il y avait un décorrélement déjà. Et si c'était le cas, est-ce que vous avez des raisons? Enfin, des raisons. Enfin, voilà.
Alors, merci. Votre question est passionnante. Et vous avez raison. Enfin, je pense que votre analyse me semble très, très juste. Il y a un chercheur en sciences d'éducation qui s'appelle Bernard Charlot. Donc, je vais utiliser ses travaux pour vous répondre et vous me direz si ça répond à votre question. Qui considère que de la fin du 19e à nos jours, il y a trois types de relations entre l'État et l'école. La première phase, donc de 1880 avec les lois Ferry jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qu'il appelle l'État éducateur. Après des années de l'après Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 1980, c'est l'État développeur, et après, à partir des années 1980, l'État régulateur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? État éducateur, c'est vraiment cette idée, et je vais revenir sur vos mots, exactement ce que vous avez dit, c'est l'idée que l'État et l'école, elles sont là pour éduquer et préparer. Alors, pas préparé à la vie professionnelle, parce qu'il n'y a pas les mêmes préoccupations que celles qu'on a eues à partir des crises économiques, même si il ne faut pas imaginer qu'il n'y avait pas de chômage, hein, mais il n'y avait pas la même situation. Mais il y a l'idée d'éduquer et de préparer. Alors, c'est là où il y a quelque chose d'important, préparer un citoyen et une citoyenne. Un petit peu plus un citoyen qu'un citoyenne, parce qu'on les oublie un petit peu quand même parfois. Mais donc, vous avez tout à fait raison. Il y a cette idée qu'il faut faire un lien entre l'école et l'après, mais plus en mettant l'accent sur le citoyen. C'est-à-dire, quand je dis citoyen-citoyenne, vous savez que le droit de vote, les femmes, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est quand même ahurissant de penser ça. Voilà. La France était très en retard aussi là-dessus. Et à partir de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 1980, on a un État développeur. C'est-à-dire que la préoccupation du devenir des élèves, elle est là, mais pas pour le devenir individuel des élèves, mais pour la société. Pourquoi ? Parce que on est dans une phase, après la Deuxième Guerre mondiale, de concurrence économique très massive. Il y a la guerre froide en plus qui rend les choses encore plus compliquées, mais il y a une concurrence entre les pays. Et donc on commence à se dire, à ce moment-là, l'école, ça va être un outil dans la lutte économique. Et donc, je vous donne juste un exemple, c'est 1966, par exemple, on crée les IUT, qui existent toujours, les Instituts Universitaires de Technologie. Pourquoi on crée les IUT? Alors, pour plein de raisons, mais entre autres, pour former des techniciens supérieurs. Alors, on a créé le BTS avant, 59 et 1962, pour former des techniciens supérieurs dont la société a besoin pour lutter face à la concurrence économique. Donc vous voyez, on se préoccupe du devenir, mais
Mais c'est plus sur les grands nombres. C'est le moment où on fait de la planification. On dit, ben voilà, il va falloir qu'on forme tant d'ingénieurs, tant de techniciens supérieurs pour pouvoir lutter contre, face aux autres sur le plan économique. Et puis, on a dernière phase, l'État régulateur. C'est le moment où l'État va perdre un petit peu de son pouvoir parce qu'on va donner du pouvoir aux régions, aux départements, aux communes. Alors les communes, c'est plus ancien, hein, parce que déjà, 1833, loi Guizot, il y a déjà une place importante pour les communes. Mais 1980, c'est les grandes lois sur la décentralisation de Gaston Defferre, enfin, si ça rappelle... qui disent l'éducation, c'est pas que l'affaire de l'État, c'est l'affaire des collectivités locales, et donc il y a des partages de compétences. Donc les programmes sont toujours définis au niveau national, les profs sont toujours formés au niveau national, enfin par l'État. Professeurs des écoles, non, c'est par l'État. Mais les lycées sont, par exemple, créés par la région, Auvergne-Rhône-Alpes, ou les collèges par les départements. Et donc, à partir de là, on s'aperçoit que La visée peut-être éducative de former le citoyen, elle est peut-être moins présente depuis 50 ans. Alors, en disant ça, je veux surtout pas dresser un tableau noir je pense que votre remarque est tout à fait judicieuse. Il y a une évolution, et je pense que l'évolution dans les mentalités, elle est liée à des évolutions de fond du type de ces trois âges. Alors après, d'autres peuvent trouver des subdivisions. C'est une vision, mais il pourrait y en avoir d'autres. Je sais pas si ça répond à votre question.
Il y a quelque chose que tu as évoqué, on en a pas parlé, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait sourire dans l'ouvrage, c'est la formation des enseignants. On voit évidemment plein de figures de l'enseignant au fil du temps, et je pense évidemment en fait au moment où on commence à essayer de savoir quel enseignant est capable de proposer quoi, et cette espèce de marché de l'enseignement se caractérise à l'époque moderne avec donc des enseignants qui portent un chapeau avec des plumes, et chaque plume représente une capacité qu'ils ont, soit ils savent lire, ils savent écrire, et la troisième plume, c'est lorsqu'on sait compter. Voilà, donc c'est assez marrant de voir que à l'époque, à l'embauche, pour être enseignant, eh bien, il fallait avoir une de ces trois plumes pour montrer comment on savait faire ce genre de choses et les transmettre surtout. Mais comme quoi, il y a aussi une histoire de l'éducation par les enseignants au-delà de l'école. Donc,
ce serait marrant si à l'heure actuelle, on cherchait nos enseignants comme ça sur le marché avec, je sais pas, faudrait un truc pour connaître.
Ça serait
drôle.
Faudrait voir avec les plumes, mais on a des fois comme vous avez vu qu'il y a des pénuries d'enseignants, on fait des recrutements des enseignants. Alors on n'est pas encore au marché, parce que c'était à Foire d'Automne qu'on recrutait les enseignants, les maires des communes dans l'ancien régime, hein, on est dans, donc avant la Révolution, et donc on venait sur la Foire d'Automne, et puis on regardait, et puis on voyait, ah, celui-ci il a deux plumes, il sait lire, écrire, celui-ci il en a trois, lire, écrire, compter, voilà, on n'a pas assez d'argent pour prendre quelqu'un à trois plumes, on va prendre quelqu'un avec une plume, oh, le fait qu'il ne sache pas écrire et compter, c'est pas un problème.
Enfin, on va le mettre dans une grange, alors.
De toute façon, oui, alors là, vous verrez, Eva a représenté des lieux d'enseignement qui sont assez étonnants. Des fois, c'était dans la maison du maître, hein, il y a un exemple où on voit, parce que on vous verrez, on voit une classe qui est la pièce principale du maître, et dans laquelle sa femme vient d'accoucher. Et c'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est parce qu'il y a eu en 1834 le ministre qui s'appelait Guizot a envoyé des hommes partout sur le territoire français pour vérifier que ce qu'il avait proposé dans sa loi de l'année précédente, 1833, ça se mettait bien en place. Et entre parenthèses, celles et ceux qui sont des professeurs des écoles, vous allez découvrir que ça a été l'invention du métier d'inspecteur.
inspecteur est né en 1834. Les inspecteurs de l'éducation nationale, enfin qu'on appelle maintenant, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais l'éducation nationale. Et il y a eu plein d'écrits qui ont été faits d'inspecteurs qui racontent ce qu'ils ont vu. Et il y en a un qui raconte qu'il est arrivé dans une classe et alors il n'a pas vu dans laquelle la femme la veille avait accouché. Il n'a pas vu accoucher, il n'a pas été sollicité pour participer à l'accouchement, mais quand même voilà, il y avait des situations. Donc voilà, et donc
ils apprenaient des choses, les enfants, les choses de la vie.
Et ben oui, voilà, pour les enfants, c'était effectivement une manière d'apprendre voilà la naissance, tout à fait. Et la question de la formation des enseignants, c'est vraiment une question très très, tu as raison de la pointer, qui est vraiment très très importante, imaginez si on recrute quelqu'un qui a une seule plume, il sait juste lire, mais alors il est à des années-lumière d'une réflexion sur la manière dont on va enseigner la lecture, hein, donc un truc qu'on appelle la pédagogie. Mais non, c'est... Alors après, il y en a peut-être qui faisaient ça très bien intuitivement, mais non. C'est toute une conquête, l'idée qui est de la formation pour les enseignants, et ça, c'est une conquête progressive. On a parlé du lycée Louis-le-Grand, enfin, un collège Louis-le-Grand à l'époque, puis le lycée Louis-le-Grand créé par un jésuite originaire d'Auvergne. Mais les jésuites ont eu un rôle très important. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de la Ratio Studiorum, c'est un ouvrage qui donnait des indications sur la manière d'enseigner. Et puis après, petit à petit, on s'est dit... Il faut que les gens apprennent à enseigner. Mais c'est intéressant parce qu'on a parfois encore à l'heure actuelle des personnes qui considèrent... Alors moi, j'ai travaillé dans une autre vie professionnelle dans des collèges et je me souviens encore de collègues, de professeurs, je revois un prof de physique-chimie qui me disait « Mais la pédagogie, ça sert à quoi? Il suffit de bien maîtriser sa discipline. » Et donc, je ne vous raconte pas les cours, enfin les échos qu'on pouvait avoir de ces cours, mais il y a encore cette idée qu'il suffit de très très bien maîtriser un savoir pour pouvoir l'enseigner. Alors effectivement, il faut très très bien maîtriser un savoir. Hein. Attention, il y a eu peut-être un moment l'idée que c'est peut-être pas nécessaire de bien maîtriser un savoir, mais ce qui compte, c'est la pédagogie. Non, c'est les deux. C'est maîtriser un savoir et maîtriser la pédagogie, la didactique... Oui, non, je pourrais faire un autre développement.
Attention à ce que tu dis, parce que moi j'ai un ancien élève dans la salle.
Ah, c'est bien, super.
Est-ce qu'il faut vraiment savoir maîtriser ou pas?
Ah, mais ça, c'est une super question. Il y a un ouvrage qui s'appelle Le Maître Ignorant, qui est écrit par Jacques Rancière, qui est intéressant à découvrir.
Oui, moi je me demandais, ça a été quoi la relation un peu dans l'histoire entre l'État ou le politique et l'éducation en tant que telle et les sciences de l'éducation, quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai l'impression, vous parliez un peu d'inégalité tout à l'heure, en sciences de l'éducation, on a des pistes pour réduire ces inégalités qui ne sont pas mises en place par des choix politiques et en fait... Moi, j'ai l'impression qu'il y a un lien qui est assez faible aujourd'hui et j'ai aucune idée de comment il a été à travers l'histoire. Est-ce que peut-être, en fait, c'est aujourd'hui qu'il est le plus fort et que... Alors, je me demande comment ça a évolué.
Alors, c'est vraiment... Votre question est également vraiment intéressante. Et c'est pas facile d'y répondre, en plus, mais c'est vraiment intéressant. Non, c'est que je réfléchis à la manière d'y répondre.
Il faut lire la bande dessinée.
Comment ?
Il faut lire la bande dessinée, il y a plein de...
Ouais, mais alors... Pendant,
on va pas tout spoiler non plus, quand même.
Comment ?
On va pas tout spoiler le livre, quand même.
Oui, mais pendant très très longtemps, déjà, l'État n'est très peu présent. C'est l'Église, ce qui fait que, voilà, tous les dessins de personnages religieux. Donc, l'Église, la question qui se pose, c'est comment faire pour transmettre la culture, enfin, la culture et la foi. Donc, la question de la pédagogie ne se pose pas, mais elle va quand même se poser avec les collèges jésuites, mais avec une pédagogie hyper traditionnelle. Et dans les petites écoles de Jean-Baptiste de La Salle qui vont se développer au XVIIe, XVIIIe siècle. Et tout au long du XIXe siècle, il y a une question fondamentale qui se pose, c'est à qui appartient l'école et à qui appartient l'enfant? Est-ce que ça appartient à la famille, à l'Église ou à l'État?
Et un des premiers à dire que l'éducation appartient à l'État, c'est juste avant la Révolution, un personnage qui s'appelle Lachaloté, qui dit « les enfants de l'État doivent être éduqués par les personnages de l'État ». Donc ça, c'est pour mes propos liminaires pour répondre par rapport à l'État. Alors après, dans quelle mesure l'État prend en compte les données de la science, des sciences de sciences psychologiques, des sciences humaines, de la sociologie ou des sciences de l'éducation, pas beaucoup. Vous avez tout à fait raison. Les sciences de l'éducation qui ont été créées en 1967, c'est pas anodin, 67, on est juste avant 68, il y avait une ébullition intellectuelle et les sciences de l'éducation se créent à ce moment-là. Il y a l'idée de réformer l'éducation et faire en sorte que l'éducation soit plus égalitaire et donc en proposant une pensée nouvelle sur l'éducation. Mais ça a été peut-être un tout petit peu pris en compte, mais pas très longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la fin du 19e siècle, il y a eu une première tentative de création de ce qu'on appelle, non pas les sciences de l'éducation, mais la science de l'éducation. Et là, la science de l'éducation, elle est portée par l'État, par la République, la Troisième République naissante. Et c'est intéressant de voir que Jules Ferry, le ministre de l'Instruction publique de 1880-82, s'appuie sur certains résultats de la science de l'éducation. Et par exemple, et c'est, je vais peut-être abattre une idée reçue, c'est qu'on a tendance à dire que l'importance de l'orthographe et de la dictée, tout ça, c'est Jules Ferry. En fait, non, c'est avant... vous savez, on a un culte de la dictée à l'heure actuelle. Bon, après, on peut en penser ce qu'on veut. Hein, je ne vais pas... mais en tout cas, en France, ça ne se fait pas forcément les autres pays, mais en France, la dictée est très importante. Et maintenant, la dictée n'est plus faite comme ça. Mais moi, qui suis un peu âgé, je me souviens de l'époque où, à partir du moment où on commençait à écrire, on commençait à prendre le risque de perdre des points. Et puis, dès qu'on avait fait 5 fautes, on avait 0. Donc, il y avait quelque chose de très stressant. Et donc, la dictée, on a tendance à l'associer à la Troisième République, à Jules Ferry. Eh bien, non, Jules Ferry, qui avait lu des choses de la science d'éducation, disait « Non, pour apprendre l'orthographe, la dictée, bon, si vous voulez faire, il disait ça, si vous voulez faire de la dictée, vous en faites un peu, mais ce qui compte, c'est de faire en sorte que les enfants observent la langue. Donc, observent la manière dont la langue s'écrit, qu'ils aient une activité, c'est presque un précurseur à travers ça, en tout cas, de l'éducation nouvelle. Il dit, il faut que les enfants soient actifs par rapport, et il ne faut pas simplement qu'ils apprennent par cœur. Il faut qu'ils comprennent. Et donc là, on avait un bel exemple de prise en compte de travaux de la science de l'éducation. Et alors après, on a des rapports de haine et d'amour tout au long du XXe et du XXIe siècle. Et de haine et d'amour, et avec des travaux qui sont parfois mis en valeur. Par exemple, dans les années 60, on va mettre en valeur les travaux des sociologues, en particulier de Bourdieu et Passeron. Bourdieu et Passeron, vous savez, c'est ces deux sociologues qui cassent la baraque en 1964, ils écrivent un bouquin qui s'appelle « Les héritiers », et en 1970, ils écrivent un bouquin qui s'appelle « La reproduction ». Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, je vais schématiser à l'extrême. Il dit, on était en train de se dire que l'école, ça marchait bien, que ça permettait l'ascenseur social, hein, dans les années 60-70. On se disait, l'école, ça va permettre de progresser. Et ils arrivent, ils disent, l'école reproduit les inégalités sociales. La reproduction. Et ce qui fait, ils ont travaillé sur des statistiques, ils montrent le pourcentage d'enfants d'ouvriers à l'université, ils montrent que c'est très très faible par rapport aux enfants de cadres supérieurs. Et donc à ce moment-là, il y a eu tout un temps où on a pris en compte des données de la sociologie, par exemple. Et puis après, on a laissé ça de côté, donc on va prendre en compte des travaux de la psychologie, mais après on va les laisser de côté. Et je me souviens, alors, je vais refaire une autre référence à Clermont.
Il y a eu à une époque un chercheur en psychologie sociale ici, à Clermont 2 à l'époque, qui était Jean-Marc Monteil. Je ne sais pas si vous avez... C'est un personnage qui... Il était enseignant ici. Et Jean-Marc Monteil, il avait écrit en 1991 un bouquin qui s'appelait « Éduquer et former ». Et dans ce bouquin, il montrait tous les travaux de la psychologie sociale qui pouvait être appliqué à l'éducation, et il se désolait, et à juste titre, dans son intro, il fait une introduction qui est terrible, parce que le pauvre, on se sentait vraiment désolé, dans laquelle il disait, mais il y a des travaux qui permettraient de prendre en compte un certain nombre, enfin, de la manière dont l'enfant se représente l'école, dont il se représente les sciences, et on ne les prend pas assez en compte, les politiques ne les prennent pas assez en compte, et il s'en désolait, et je pense que on n'a pas tellement plus évolué là-dessus. Je vous donne... J'ai encore un petit peu de temps.
Tu peux prendre encore une minute.
Ouais, après. Je vais quand même faire un truc avant.
Vas-y, vas-y.
Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait que nous qui travaillons. On va faire comme à l'école. Je vais vous poser une question. C'est le moment d'interrogation.
J'aime bien. Et tu veux poser une question aussi?
Oui, non, je veux, pour de vrai.
Ah, tu vas poser une question?
Oui,
tu veux la poser tout de suite ou...
ouais, non, je vais.
Alors,
je sais pas si on a le temps.
Alors, trembler. Ouais, ouais. Alors, juste une chose sur les travaux de Jean-Marc Monteil, juste pour vous montrer qu'il y a du travail à faire encore. Il fait une expérience. Il partage une classe en deux, une classe de quatrième. On n'est plus dans l'histoire de l'éducation, mais ça montre en quoi le présent peut s'alimenter du passé. Il partage la classe en deux. Il les met dans deux classes différentes. Il leur fait, il propose une épreuve présente une figure géométrique complexe. Et il la présente pendant 15 secondes. Vous la regardez, il la cache, vous la reproduisez. Après, on a des techniques qui permettent de repérer le degré de mémorisation de la figure géométrique. Donc, on peut classer les élèves après en disant, ben là, il a très bien reproduit. Lui, il a bien reproduit, mais il a inversé la gauche et la droite, en fait, tout ça. Dans le premier groupe, il dit, je vais vous présenter une épreuve de dessin. D'accord ? Il donne les consignes. Dans le deuxième groupe, il présente exactement la même figure, mais il dit, je vais vous présenter, on va faire une épreuve de géométrie. Qu'est-ce qui se passe ? Dans le groupe dans lequel, on a dit géométrie, donc mathématiques, eh bien on s'aperçoit que les écarts entre les élèves qui habituellement sont bons en maths et ceux qui ne sont pas bons en maths est considérable. C'est-à-dire que les élèves qui ne réussissent pas bien en maths, on leur a dit c'est de les maths, c'est de la géométrie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, voilà, oh, ça c'est pas pour moi. Et ils ne mettent pas en jeu les qualités cognitives qui leur permettraient de réussir cette tâche-là. Là, dans le groupe dessin, il n'y a aucun écart entre ceux qui réussissent habituellement en maths et ceux qui ne réussissent pas. Parce qu'on a dédramatisé des choses et on a dit, c'est du dessin. Donc ceux qui ne sont pas bons en maths, ils se sont dit, c'est du dessin, le dessin, je suis bon, je suis pas bon, il n'y a pas le même enjeu autour du dessin, je suis désolé, que des maths. Et donc, les écarts entre les élèves sont moins élevés. Et donc, quand on a des éléments comme ça, je ne sais pas si ça répond à votre question, c'est super intéressant. Et il y aurait sans doute des choses à en faire en travaillant sur les représentations que les élèves ont de certaines disciplines, par exemple les maths ou par exemple le dessin. Voilà, enfin, je pourrais répondre encore beaucoup plus longuement, si vous voulez, mais votre question est très importante. À l'heure actuelle, ce qui est très valorisé, ce sont les neurosciences. Donc c'est très intéressant, et en même temps, il faut faire attention, parce que les neurosciences, souvent, elles sont dans une logique de laboratoire, et parfois, les travaux qui sont mis en évidence dans le cadre d'un laboratoire, c'est parfois difficile de les transcrire dans le cadre d'une classe dans laquelle il y a 25, 28, 29, 30 élèves et qui ne sont pas, qui sont pas des sujets de laboratoire. Mais c'est intéressant pour autant, et le ministère prend quand même en compte un certain nombre de travaux de neurosciences. Eva.
Alors, vous aurez un bon point de la Rolin, hein, si vous arrivez à... Pas le bon point du maréchal, mais de la Rolin. Non, moi, c'est une anecdote que j'ai beaucoup aimée dans le livre, que j'ai appris. D'où venait le mot pédagogie, pédagogue, et de quelle époque ça remontait? J'aime beaucoup cette anecdote. J'ai beaucoup aimé la dessiner aussi. Donc voilà. Est-ce que vous savez pédagogie, pédagogue, d'où ça vient? Une petite historique là-dessus. Ah, on va devoir sortir la règle en fer. Eh bien, je te laisse expliquer parce que... Bon, je peux l'expliquer aussi, mais...
Tu veux, vas-y.
A priori, donc, c'était pendant l'Antiquité. Alors, a priori, je dis, parce que je ne l'expliquerai pas aussi bien que Jean-Yves, parce que je ne suis pas historienne, quand même. Mais pendant l'Antiquité, les familles aisées avaient un esclave qui devait accompagner les enfants à l'école, les ramener de l'école et les réaccompagner. Et accessoirement, au fur et à mesure aussi, il les surveillait, il leur faisait faire les devoirs. C'était lui qui s'occupait des enfants, des devoirs et de tout ça. Et donc, c'était le pédagogus, qui veut dire donc accompagnant. Et donc, la pédagogie, c'est accompagner. Voilà.
Super.
Ça va, j'ai bien résumé.
J'ai rien à redire. Bravo. C'est ça, pédagogie.
Je trouve que c'est plutôt une belle anecdote quand même. En fait, ça part d'un esclave antique. Qui accompagnait les enfants à l'école, quoi. Ouais. Et je trouve ça ça a évolué. Ou alors, moi, je vais peut-être me prendre un petit esclave aussi. Pédagogue. Je vais me prendre un pédagogue.
Un accompagnant bien amené.
Ah, mais c'est super.
C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé en fait découvrir. C'est toutes ces anecdotes là que j'ai découvert grâce à Jean-Yves.
Elle dessine le pédagogue qui sur le chemin de l'école avec les enfants qui sont un peu turbulents,
qui s'en sort pas trop en fait.
Et pédagogue, c'est effectivement à l'heure actuelle, c'est quelqu'un. Enfin, ça, on peut considérer que c'est quelqu'un qui accompagne l'élève ou l'enfant ou l'adulte aussi. Enfin non, dans ce cas-là, pédagogue c'est enfant, mais qui accompagne l'élève dans l'appropriation des savoirs. Donc, ouais.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des mots et des termes et des choses qu'on connaît, qu'on emploie tous les jours, mais dont on ne se connaît pas là, en fait la signification, la naissance du truc. Et c'est ce que moi j'ai adoré apprendre avec toi.
Voilà. Vous verrez l'origine du mot éducation, l'origine du mot érudition. Enfin voilà, des choses qui apparaissent dans le livre.
Voilà.
On a du mal, même en une heure et demie, à faire le tour de tout ce qu'il y a dans cet ouvrage. Il y a énormément d'anecdotes, de ressources et évidemment donc de choses pour lesquelles on peut encore se plonger et aller plus loin grâce à la bibliographie. Mais en tout cas, on va pouvoir passer donc aux dédicaces pour ceux qui le souhaitent.
Je veux juste une toute petite pause.
Oui, ça. Eva va prendre un instant quand même pour
pause nicotine.
Et puis ensuite, on va pouvoir enchaîner avec quelques dédicaces. Jean-Yves pourra commencer à faire quelques signatures. Si vous voulez aussi échanger plus directement, il est là pour ça jusqu'à 19h. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange.
Merci. Combien de signatures pour que je sache, pour que je gère à peu près.
Bon, on va essayer de faire le compte. On va essayer de faire le compte.
Combien de temps pour les signatures?
Tu as une heure.
C'est bon.
Bon voilà, tout le monde devrait avoir sa signature. En tout cas, merci à vous
de votre attention et de votre présence. Merci.
Et merci à vous d'être venu pour répondre à toutes ces questions.
Merci de tes questions qui étaient
super bien lu le livre. T'étais hyper préparé. Toi, t'auras un bon point de la rôle. Un petit coup de tampon.
Je prends le tampon.